fait du débosselage pas cher. Je demande même pas de facture. Mais faut réparer ça, là, c'est lettre. Pascal, arrête pas de chialer après moi.
N'importe quoi!
Ouais. Ah, tu sais, t'as des si belles dents, puis une poque sur ton char.
Exact! Mais là, il y a des gens qui me disent que leur dentiste leur coûte... J'ai-tu vu du 135$, Pascal?
Oui, moi, j'ai déjà vu ça. Là. Mon nettoyage deux fois par année, c'est environ ça. Je pense que c'est 150 max.
OK. Denis m'écrit, dit « Yann, mon dentiste, moi, c'est 175 pour moi, 135 pour mon ado. »
Puis toi, c'était combien, Yannick?
Ah, 230.
Ça doit aller avec la grosseur de la gueule.
C'est des messages qui se passent, c'est ça? Voulez-vous que je laisse tranquille une minute?
Ouais. Salut Yann, la facture chez le dentiste ne devrait pas être le même montant si le dentiste n'a pas fait l'examen du patient. On ne peut pas charger si le dentiste n'est pas passé. Qui va savoir ça? À part moi, là, qui sait que j'ai jamais vu le dentiste. Moi, j'étais prévu pour un nettoyage, mais le dentiste vient tout le temps vérifier.
Ah
oui? Oui.
Là, j'avais une hygiéniste dentaire psychopathe.
Psychopathe.
Parce qu'elle fait sa job, lui a peur.
À cette heure, il y a comme un truc, c'est comme au laser, là. Okay. Puis là, il vérifie ta dent. Là, c'est un laser. Fait que ça détruit, mettons, le tartre qui est supposé d'être là. Puis à la toute fin, elle vérifie si sa job est faite. Puis elle se transforme en capitaine crochet. Puis là, à un moment donné, je me suis...
Avant, c'était juste un crochet, Yannick, là.
Ouais.
Ah, ça, c'est pas le fun.
Mais j'imagine que c'est pour ça que des fois, les filles n'ont plus les mêmes techniques. Là. Sérieux, à un moment donné, j'ai dit, je pense que t'es en train de me piquer le derrière de l'œil tellement que c'était profond, là.
Moi, c'est à soi dentaire, là, pour ceux qui ont eu des broches, ils vont comprendre le fil en arrière de nos dents, là. Ils essaient de passer à soi dentaire, mais il faut qu'ils rentrent avec un engin de plastique, les gars, là. Puis ils te rentrent ça barre en barre la gencive, ils tirent. Puis après ça, t'assois et là, écoute, ça, là.
C'était pas le fun, ça.
Ça demande des nerfs d'acier. Ouais.
Puis, tu sais, j'ai pas le droit de mentir, moi, dans la vie, OK? Puis, j'interdis mes enfants de mentir. Mais quand t'as dit, est-ce que tu passes ta soie dentaire régulièrement?
Même si tu dis oui, puis tu m'as, elle le sait, là, tu m'as saigné, Yann.
C'est ça.
Plus t'en passes, moins tu saignes.
On dirait la scène de décadence.
T'en as partout dans la face.
Partout dans la face.
Il y en a ses murs aussi.
Parce que je le fais comme deux, trois fois. Tu me lèves le matin, là, je me dis, oh, tabarouette, j'ai le dentiste. Normalement, je le fais une fois par semaine à peu près, ou une fois ou deux semaines. Mais c'est plus une fois par semaine.
En même temps que la balayeuse.
Puis là, le matin, que je sais que je m'en vais chez le dentiste, là, let's go, je me gâte. Là.
Ouais. Mais elle sait que t'as fait semblant.
Mais là, j'arrive là, puis après ça, elle rajoute ça. Ça saigne de partout. Fait que, bref, bonne chance avec ta dent, David.
Ouais, mais ça me tente pas. Va falloir la reconstruire. La moitié est cassée, là, littéralement en diagonale.
Là, t'as pas mal, tu souffres pas,
non. Elle est fendue en deux.
Ouais, genre d'en haut en bas en diagonale. C'est pas tant le fun, mais bon, regarde, c'est la vie. J'avais juste remarqué, c'est peut-être juste un.
Elle est due à de la pizza, moi, c'est ça qui me fait pleurer. Fendue sous la pizza. T'en casses ça comme des pâtes trop cuites.
Moi, je préférais dire que tu t'étais battu pour défendre l'honneur de ta conjointe.
Ouais, t'essayes.
C'est toi qui s'est vendu.
Mais c'est super toxique, Yann, de toute manière.
Sa dent a été vaincue par un champignon.
Un champignon.
Ben oui, c'est la pizza. T'as une garnie.
Okay, ouais. Il était sur la pizza, pas dans la dent, s'il vous plaît.
OK, chroniqueur international, aux choses sérieuses. Mark Carney, qui a décidé d'aller rencontrer le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Qu'est-ce que ça a donné, mon ami?
Écoute, c'était beaucoup un statement, là, dans le sens de « je vais là pour dire que je suis là ». Il est allé là dans un train de nuit, en blackout médiatique. Personne ne savait qu'il s'en allait là. Bon, il y a tout le temps une espèce de... Évidemment, c'est un pays en guerre, là. Mais arrive là, puis finalement, il a fait une conférence de presse pour dire « On a toujours été là et on sera toujours là pour l'Ukraine. » Puis ça s'est pas mal arrêté là. Puis là, il s'est fait poser la question « Ouais, mais tu sais, les garanties de sécurité pour arrêter la guerre, là, parce que... » Juste pour remettre en contexte, Zelensky dit « ben je veux une garantie que je me ferai pas réenvahir dans 3 ans une fois que la paix est faite. » Fait que ça me prend des garanties de sécurité pour accepter de, par exemple, laisser des bouts de territoire à Poutine. Poutine n'accepte pas vraiment ça, mais ce qu'il appelle la coalition des volontaires, là, donc les pays qui sont vraiment en appui à l'Ukraine. Donc le Canada, l'Union européenne, il y a l'Australie, puis il y a un autre que j'oublie, le Japon. Eux, ils disent, ben, on va s'en occuper, nous autres, de la sécurité pour te garantir que tu ne te feras pas réenvahir. Fait que là, Carney se fait demander ça, puis là, il dit, ben, j'exclus pas d'envoyer des troupes en Ukraine. Fait que c'est une déclaration qui fait du sens dans le contexte. Là. Ouais. Tu vas à Kiev, puis tu es à côté de Zelensky, c'est sûr, tu ne diras pas, ça ne m'intéresse pas. Mais ça a beaucoup de conséquences dans le futur pour nous autres, ça, parce que l'armée qui se déploie dans un autre pays, dans une zone conflictuelle, c'est pas fait, là. on n'est pas nécessairement équipé pour ça okay. non plus. Là.
Mais on est déjà présent, petite parenthèse, là, depuis le début, même avant qu'on envahisse, pour entraîner des soldats ukrainiens et tout. On avait une certaine présence, mais au pourtour de l'Ukraine.
On était en Lituanie, de ce que je comprends.
Oui,
en Lettonie aussi.
Lettonie. Effectivement, on a une base là, on a des soldats qui sont là. On a parlé de 2 milliards de dollars dans l'aventure. Ça, c'est pour acheter de l'équipement pour nous, mais aussi pour fournir à l'OTAN.
Ben, c'est pas clair comment que ça va se départager tout ça, parce que là, il dit, ben, j'enverrai peut-être des troupes. Fait qu'évidemment, on va équiper nos troupes, mais là, si la game, c'est que c'est pas nous qui envoie les soldats sur le sol, ben, on va peut-être contribuer avec du matériel. C'est ce qu'on avait dit qu'on allait faire avec l'Ukraine, puis on n'a pas livré grand-chose à date. Donc là, jusqu'à où ça va se rendre? T'sais, en fait, mon point plus général, c'est quoi la crédibilité du Canada en ce moment pour effectuer ce genre de déclaration-là? De dire, je vais participer à prendre le contrôle d'une zone tampon conflictuelle avec des soldats, puis évidemment l'équipement qui vient avec, pendant longtemps, là, parce que c'est pas juste une semaine, le temps que tout le monde se calme les nerfs, là, t'es là pendant des années et des années. On en a déjà fait des missions de maintien de la paix. Là.
Avec les casques bleus, entre autres.
Exact, puis ça, des fois ça a bien été, des fois ça a moins bien été, là, on connaît les histoires au Rwanda puis au Kosovo, mais ça, c'est un point important. Quand tu déploies tes troupes, c'est quoi les règles d'engagement? Parce que si tu les envoies là avec pas de balles sur eux autres, pas de chargeur dans le gun, puis tu leur dis « faites des beaux tatas », puis que là, d'un jour au lendemain, Vladimir se relève puis dit « hey, sais-tu quoi, ça me tenterait d'en manger un petit peu plus de l'Ukraine », nos gars sont en danger. Là.
Est-ce qu'on est seul aussi? Est-ce que c'est seulement le Canada qui accepterait d'endosser sur leurs propres épaules financièrement et aussi en termes d'humain cette mission-là, là, d'être présent pour la paix? Ça en dit beaucoup pour les alliances pour la suite, mais aussi le sacrifice qu'on va faire sur nos propres finances militaires. Là.
Oui, ben absolument. L'Union européenne s'avance vraiment, par exemple la France et l'Allemagne, de dire « écoute, on va participer à ça ». Mais souvent, il y a une nuance. Là. On n'enverra pas de soldats sur le sol, mais on peut faire une zone aérienne là, d'exclusion, là, une zone de protection. C'est facile de dire ça parce que là, tu fais voler des avions dans une zone où finalement, tu n'as pas le droit de traverser d'un bord ou de l'autre. Là. Sauf que là, par les airs, il se passe quoi quand Poutine décide de réenvahir par le sol? Là, t'es obligé de le bombarder. Puis là, ben, il y a cette histoire-là, dans le fond. Là. Quand tu t'en vas créer une zone tampon, si jamais un des deux pays décide que lui, ça lui tente de repartir la balle, faut que tu réagisses. Là. Fait que là, ça se peut qu'on tombe en guerre avec la Russie directement si ça s'établit. Ce que je doute beaucoup. Je pense pas que Vladimir Poutine va accepter dans sa négociation de paix là, qu'une zone tampon occupée par des pays de l'OTAN, finalement, duquel... dans le fond, c'est une des raisons du pourquoi il a envahi l'Ukraine, c'est qu'elle ne joigne pas l'OTAN. Puis tu vas déployer des troupes de l'OTAN à la frontière de la Nouvelle-Russie, si on veut.
Mais les casques bleus, ça pourrait être possible. Je veux dire, on l'a déjà fait. On a eu une excellente réputation à travers le monde. Moi, j'ai des chums qui ont été casques bleus. La plupart sont encore fessés, là. Mm-hmm. Sont PTSD à côté parce qu'ils ont vu des choses absolument ignobles, mais ils ne pouvaient jamais réagir en raison des règles d'engagement qu'il y avait. Là, on les mettrait là. Est-ce que Carney voulait juste sa place sous les projecteurs?
Bien, j'ai un peu ce feeling-là, parce que de toute façon, l'armée canadienne...
Est-ce que Trump mène le bal? Volodymyr Zelensky est impliqué là-dedans, parce que nécessairement, c'est le président ukrainien. T'as Trump, puis t'as de l'autre côté Vladimir Poutine. T'as les gens de l'OTAN qui se sont fait voir à la Maison-Blanche quand c'était le temps aussi de se faire voir. Mais pour le reste, le Canada a été mis de côté, puis là, il voulait juste sa place au soleil.
Je pense que oui, effectivement, c'est de la politique, de la crédibilité internationale. Mais la question revient rapidement, parce que là, on en a parlé récemment, l'augmentation des salaires des militaires. Puis là, c'est du réinvestissement pour atteindre le 2 % de l'OTAN, puis après ça, ultimement, peut-être le 5 % qui est demandé à l'OTAN en investissement militaire. Mais entre le moment où tu dis « on le fait », puis le moment où tu dis « j'ai la force additionnelle », il y a du temps, là. Puis on en aurait besoin demain matin si la paix arrive. Là. Donc là, sur quoi on va rogner dans l'armée finalement pour envoyer des soldats là-bas? Parce que ça va probablement être quelques milliers de soldats quand même.
Mais c'est ça, c'était super important. Puis pourquoi est-ce que ce serait, puis je répète ma question, que le Canada en ce moment qui se mobilise? Puis là, c'est pas rien de garanti. Là, on pense, on réfléchit, on prévoit, on tente. C'est ça là, ce qui se passe avec Carney puis le Canada. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres pays de l'OTAN? Pourquoi il n'y a pas d'autres chercheurs de paix dans ce conflit-là? Le point d'interrogation, moi, il persiste au-dessus de ma tête. Là.
Mais il y a d'autres pays qui veulent embarquer. Là. Comme je disais, l'Allemagne, la France, l'Italie aussi ont une volonté de déployer des troupes là-bas. Mais c'est jamais clair qui va mettre des troupes au sol. Puis c'est ça la grosse nuance. Parce que quand tu mets des avions dans les airs, si jamais ça explose, t'es tassé de là, puis là, tu laisses la guerre aller, si tu veux. Mais quand t'as des soldats à terre, t'es pogné avec. Là. Puis cette zone tampon-là, c'est des gens qui sont vraiment à risque parce que ça peut réarriver que le conflit se rouvre.
Ouais. Le 2 milliards, j'ai les chiffres ici. Là. Donc, pour ce qui est du 2 milliards, on parle d'investissement militaire. On dit que le tiers de cette somme-là va servir à l'achat d'armes qui viennent des États-Unis. Donc, les gens qui bâtissent des armes aux États-Unis vont être très, très, très heureux. Ce qu'on veut acheter aux États-Unis, c'est des missiles Patriot qu'on donnerait à l'armée ukrainienne par la suite. Et il y a une somme de 680 millions qui servira à l'achat de matériel militaire prioritaire qui va être ensuite envoyé à l'OTAN.
Mais tu sais, ça, on le fait déjà. Qu'est-ce que ça va changer une fois que la paix est arrivée, tu sais? Moi, je trouve que le significatif, c'est pas d'envoyer de l'argent, c'est d'envoyer des troupes. C'est ça que Carney a ouvert comme porte. Puis il faut vraiment faire attention à ça, puis pas tomber dans l'espèce de fièvre de la paix à tout prix, là. Puis d'accepter un peu n'importe quoi, puis se ramasser avec ça à long terme. Parce qu'une fois que tu as des gens sur place, t'es pogné avec. Surtout dans une coalition, parce que tu as les autres pays, parce que tu vas leur dire, hey, pensez à ça finalement, puis je vais ramener mon monde à la maison, puis les autres, ils se retrouvent avec le, en bon français, le bucket, là. Ça fait pas plaisir à personne. Ça s'est passé en Irak, ça s'est passé en Afghanistan, puis les sorties de ces deux pays-là se sont pas super bien passées non plus, là. Donc, il faut y penser beaucoup d'avance pour dire c'est quoi le rôle vraiment qu'on veut jouer dans cette histoire-là, puis à quel point on veut exposer nos troupes à nous au danger potentiel de réouverture de conflit avec la Russie, là. C'est pas un conflit limitrophe entre la Thaïlande puis le Cambodge, où ce que là, c'est deux armées un peu pic-pac, là.
Exact.
Là, c'est un vrai géant, là, même s'il y a un peu les pieds d'argile, là. Les pieds en argile, c'est ça l'expression?
Pieds d'argile.
Le géant aux pieds d'argile?
Oui. Ouais,
j'avais le bon matériau.
Hey, je veux profiter du fait que tu étais en politique pendant des années et des années, David Chabot, pour te parler de ce sujet-là, sans trop rentrer dans les détails, parce que tu es ici pour nous parler d'actualité internationale. Quand vous travaillez pour un politicien, est-ce que vous devez constamment montrer patte blanche puis être le plus clair possible? Exemple, vous avez du matériel à fournir. Puis vous dites, moi, j'ai besoin d'images de trafic à Québec. Si tu vois passer une image de l'autoroute des Carrés à Montréal, est-ce que vous percevez ça comme une erreur majeure dans votre vidéo, si vous incluez l'image de l'autoroute des Carrés pour illustrer le trafic à Québec? Puis le mettez-vous pareil?
Bien, je comprends pourquoi tu parles
en,
de ça.
En que... disant, ben, c'est du trafic, c'est pas si grave que ça, tout le monde sait c'est quoi du trafic. Mais je veux dire, ça fait pic-pic un peu, là.
Bien, c'est sûr que c'est pas idéal, là, on se comprend, mais tu sais, ce genre de choses-là, tu vas le flaguer quand tu as du staff permanent qui sont habitués, qui sont tout orientés vers la même affaire. Là, tu sais, du staff de campagne comme ça, là, parce que tu sais.
Des bénévoles.
C'est des bénévoles, ils font ça à temps partiel, ils n'ont pas nécessairement la formation là-dedans.
Ouais.
Fait que c'est le genre d'affaires qu'ils vont laisser passer parce qu'ils se disent, comme tu dis.
Du trafic, c'est du trafic.
C'est ça. Mais après ça, tu sais, le step d'après, c'est de dire, OK, là, je suis à Québec, je représente les gens de Québec, je veux me faire élire à Québec, fait que ça prend des images qui viennent d'ici. Cette sensibilité-là, tu l'apprends par le feu, là, tu sais, dans le sens que...
Quand tu l'as d'en face, tu sais que tu ne le referas plus.
Ben, c'est ça. Tout le monde a fait ces erreurs-là à différents niveaux. Là, ça a été visible, ça a été couvert. Ça ne fera pas de mal à long terme. Je pense que c'était juste un petit faux pas, pas si grave que ça, mais c'est ce genre de petite erreur-là que, comme staff politique puis comme politicien aussi, tu te formes puis tu apprends, là, parce qu'il ne faut pas que tu fasses ça.
Oui, mais moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est qu'on est tellement ridiculisé par cet enjeu-là là, de transport. Montréal, partout au Québec, même le Saguenay-Lac-Saint-Jean sont pas en accord pour beaucoup avec nos projets de transport actuels, surtout le troisième lien. Tu vas poser des questions, puis tu as des statistiques qui en ressortent, là, de ce que je dis régionalement parlant. Pour eux, ils trouvent que c'est beaucoup d'argent investi des autres paliers gouvernementaux dans lesquels ils font aussi partie, puis qui n'ont pas d'enveloppe. Mais de mettre une image pour parler de notre problématique actuelle de Montréal, c'est un peu perdre la crédibilité. Puis moi, si j'étais Sam Hamad, je referais un petit briefing en disant « J'haïs la micro-gestion, mais il va falloir s'atteler parce que ça nous fait perdre une crédibilité. » Puis quand vient le temps d'en jaser, ce qui va ressortir, c'est ben « Oui, mais pour prouver votre trafic, vos embouteillages, vous devez mettre des photos de décarie pour essayer de trouver votre lien. » Puis ça, je trouve que ça a des impacts beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas fait une contre-vérification.
Puis quiconque habite à Québec, là, sait que la fin de semaine, maintenant, que ce soit sur la capitale, sur Henri IV, sur Duvallon, sur Henri IV Sud pour monter vers les ponts, ben quand tu es de l'autre côté, sur la rive sud pour revenir vers Québec, écoute, c'est du trafic à côté la fin de semaine. Ça prend 30 secondes de dire à tes bénévoles, savez-vous quoi, prenez vos cellulaires, là, puis celui qui conduit pas prend des images du trafic, puis c'est ça qu'on va mettre dans notre belle vidéo pour démontrer que le trafic à Québec existe bel et bien. Je trouvais ça hallucinant, mais comme tu le dis, c'est des gens qui sont pas encore mindset politique, c'est des gens qui ont dit, ah ben moi je veux aider dans ces campagnes-là, puis d'un bord comme de l'autre, ils vont faire des erreurs, là.
Mais tu sais, c'est correct qu'on en parle, là, mais ce genre d'enjeu-là, je trouve que tu sais, ça dévie un peu les débats de fond. Dans exact. Le sens que la photo, ultimement, on s'en sac. Là, dans le sens que, oui, OK, c'est un faux pas. C'est maladroit, ça, c'est clair. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est quoi la question en arrière de ça? Il y a du trafic à Québec, puis qu'est-ce qu'on fait avec? Puis ça, je trouve que dans les campagnes, souvent municipales, mais dans tous les paliers, on aime bien ça s'accrocher sur des affaires qui sont pas un vrai enjeu.
Ben, c'est parce que ça dépend comment t'en parles. Si t'en parles du genre, c'est des caries, c'est une chose. Si t'analyses, tu dis, merde, on va encore manquer de crédibilité parce qu'on va s'attabler à ça, au fait que si on veut prouver qu'il y a du trafic, il faut prendre une image de Montréal. Là, ça devient important. L'autre lien aussi, moi, que je ferais par rapport à ça, c'est si l'équipe de M. Hamad fait pas trois clics de plus, ou encore, choisir la va-vite, des détails qui finalement ont des impacts. Ça va-tu être ça en campagne? Et s'il se fait élire? Il y a toujours, moi, dans ma tête, le trois clics de plus qui va se faire sur comment ça va être perçu. Puis c'est super important. Moi, je dirais gratouiller là et non une image de... Non, non, qu'est-ce qu'il y a en dessous? La crédibilité, dans ce cas-ci. Peut-être le manque de peaufinement professionnel là-dedans. Est-ce qu'on a tourné les coins ronds? Est-ce qu'on a pensé à tout dans ce que ça va donner comme message? Là, ça devient intéressant. De l'analyser puis d'en parler sur la place publique.
Je comprends ce que tu veux dire. Il y a des partis puis des politiciens de beaucoup plus grande envergure qui se sont pétés à gueule fréquemment sur des affaires. Là,
faites comme nous et votez Bernier.
C'est
Maxime Bernier.
Ça a existé, ça. Faut pas l'oublier.
Le Québec, c'est nous, ça a existé. Lève ta main bien haute, ça a existé.
Ouais, la main bien haute, ça, c'est bon aussi.
Tout était parfait.
La fameuse vidéo d'annonce que Jean Charest se présentait pour les conservateurs en je me souviens plus quelle année, puis là, finalement, il l'a fait retirer, puis il s'est pas présenté. Ça, c'était quand même grave. Puis Jean Charest, il n'est pas né de la dernière pluie.
Ouais.
Fait que tu sais, ça arrive souvent, surtout en début de campagne comme ça, mais regarde, il faut passer outre.
Ils vont se ressaisir. Tu étais directeur de cabinet. J'imagine que tu as regardé un peu ce qui se passait à la commission Galant.
Oui.
Je vais te faire entendre les trois ministres. Le premier, Laurent Lessard. Je vais te faire entendre aussi François Bonnardel. Je vais te faire entendre Geneviève Guilbeault, qui était de passage à la commission Galant. Ça s'appelle le bal des souvenirs perdus.
Je me souviens pas d'avoir siégé beaucoup. Puis je me souviens pas non plus. Donc, je me souviens pas d'avoir répondu à des questions. Je me souviens pas si le chiffre était 458 millions. Moi, honnêtement, je me souviens pas que ça a été porté à mon attention. Je me souviens pas qu'on m'ait mentionné. Je dis pas que ça n'a pas été fait, mais ça m'a pas marqué. Je me souviens pas qu'est-ce que le Trésor a fait. Et moi, je me souviens pas d'avoir eu cette discussion-là avec elle. Je me souviens pas. Puis je me souviens pas de la sienne. Je me souviens pas parce que j'ai pas mon agenda, même si c'était public.
De mémoire, je me souviens pas. Je me souviens plus. Je peux pas me souvenir. Je me souviens plus. Je me souviens pas de mémoire. J'ai pas souvenir.
J'ai pas souvenir, je me souviens pas exactement, mais j'ai pas souvenir de l'avoir fait. Je ne me souviens pas avoir reçu de documents à l'avance. J'arrive pas à avoir un souvenir clair de ça. Je me souviens pas. J'ai pas de souvenir, tu sais, c'est un peu comme l'autre page. J'ai pas de souvenir spécifique, de conversation spécifique sur une page spécifique. J'ai aucun souvenir. J'ai pas le souvenir, moi, expérientiel dans ma mémoire. Je peux pas avoir de souvenir exact. J'ai pas de souvenir plus précis. En fait, j'ai pas de souvenir précis. Mon souvenir peut être inexact. J'ai pas le souvenir. J'ai pas de souvenir de quoi que ce soit. Comme j'ai pas de souvenir précis. En tout cas, c'est le souvenir que j'ai. J'ai pas de souvenir assez précis. J'ai pas le souvenir qu'on ait abordé le sujet. Non. J'ai pas de souvenir de cet ordre du jour-là. J'ai pas de souvenir. Je dois dire honnêtement que j'ai pas de souvenir. J'ai pas de souvenir de moi. J'ai pas de souvenir. J'ai pas de souvenir, mais je me souviens pas. Moi, je n'ai pas de souvenir.
Peux-tu avoir des gens qui font pas de l'Alzheimer, mettons, comme ministre?
J'en ai pas le souvenir. C'est bon politique. J'ai pas le souvenir précis. J'ai pas le souvenir exact. Là. Ben oui, je m'en souviens. Je me souviens pas à chaque fois.
C'est tout de « je m'en souviens pas » unique. Là. Il y en a pas qui ont été dupliqués pour vous tromper. Là. On les a toutes coupées, puis ça donne ça. Écoutons, les politiques qui t'ont travaillé, avais-tu plus de mémoire que ça?
Oui, je te jure que le mal au lit, on n'oubliait pas beaucoup, vraiment. Mais mettons, là, j'aime bien ça être l'autre côté de ta médaille là, dans ce genre d'affaires-là. T'sais. Oui, certainement qu'il y a des « je m'en souviens pas » qui sont très convenient, là, que ça donne bien de dire ça. Mais il y a des « je m'en souviens pas » qui sont legit parce que tu en vois tellement passer des dossiers. Puis oui, la rencontre que tu te fais dire que ça bosse d'un milliard, là, t'es censé t'en souvenir. Là.
Ouais.
Mais tu sais, une conversation de genre ou un courriel qui a passé il y a 5 ans qui dit « ah, il y a une préoccupation avec la SAC, mettons, en plein milieu d'une pandémie, par exemple. » Je peux comprendre que peut-être que... Puis tu sais, quand on parle de Laurent Lessard, ça va faire 10 ans qu'il était là.
Mais tu sais pas toujours ce qui arrive dans une commission comme ça en termes de questions, sauf que globalement, le sujet... Tu as été préparé pour répondre à une question. Tu es sûrement retourné dans tes affaires. Tu le sais aussi. Si ça a floppé autant, quelqu'un est au courant de quelque chose.
Ouais,
quelqu'un se souvient de quelque chose.
C'est ce bout-là, tu sais, au début de la commission. Puis par ailleurs, là, je tiens juste à dire que quand ils ont parti de la commission Galant, puis que Galant s'est fait dire, ben, en tout cas, les gens ont dit « Ah, il sera pas neutre parce qu'il était avec Sonia Lebel à Charbonneau, je sais pas quoi. » On va dire qu'il fait un job.
Madame
Lebel, le commissaire va témoigner, ça va être intéressant cette semaine, vu son rôle.
Le commissaire, je l'écoutais la semaine passée, vendredi soir, je montais vers Montréal. Sérieux, il est exceptionnel. Là. Souvent, avec le fameux courriel de Geneviève Guilbeault à François Legault, puis Martin Koskinen, la procureure s'est élevée, puis là, elle était fâchée de voir cette lettre-là qui était rendue publique. Puis elle ne comprenait pas pourquoi c'était justifié de mettre ça. Puis Galant, elle l'a remis à sa place, puis pas à peu près. Puis il a dit, s'il y a de quoi, là, vous irez jusqu'en cour, puis vous reviendrez contre moi.
le gars, il a du swag, tu sais. Mais la fameuse lettre là, de la ministre Guilbeault à François Legault, ça, c'est de la dynamique.
Ben oui.
Parce que dis-toi que ça se parle à tous les jours, ces gens-là, là, au cellulaire, dans les corridors, puis tout ça. Fait que quand t'es rendu à envoyer un courriel, c'est parce que t'as un message à passer que tu sais qui va rester on the record pour l'éternité.
Ouais.
Fait qu'il y avait quelque chose là.
Exact. Ah non, c'est un beau sketch qu'on a. C'est juste que le fameux passage à la barre, si on peut appeler ça comme ça, des « Ah, je me souviens pas, je me souviens pas, je me souviens pas », il y en a qui peuvent peut-être être vrais, mais ce que je sais pertinemment, c'est que ces gens-là ont été rencontrés avant le témoignage et se sont fait briefer. Tant qu'à dire de quoi d'approximatif ou s'il y a quelque chose qui peut te mettre dans l'embarras, t'as juste à dire « Tu t'en souviens pas, on pourra jamais revenir contre toi. »
Ben, mais c'est vrai. Parce que c'est comme nous autres, là, tu te fais arrêter et tu te dis, comment de verre que t'as pris 5-6, c'est fini. T'as dit 5-6, c'est 5-6 pour tout le temps. Même si tu fais, je repassais à ça, il y en avait 3. Non, t'as dit 5-6. Tu
t'es arrêté souvent, toi? Ben?
Non, moi. Je suis plus un gars plate qui reste à la maison et qui se casse des dents.
Avec la pizza.
Ouais, c'est ça que je fais.
Mais c'est ça. T'sais, on peut pas leur reprocher quelque chose en disant, mais vous en souvenez pas. J'avais vu Guilbeault s'est fait avoir parce qu'elle a dit, non, moi, j'étais pas au courant des dépassements de coûts, alors que dans la lettre, elle dit clairement que le rapport du vérificateur général va sortir et tout ça. Là, elle s'est fait pincer là-dessus parce qu'elle s'attendait jamais à ce que cette lettre-là soit mise en preuve. Mais des « je le sais pas », là, je suis un peu tanné d'entendre ça. Puis j'imagine que le commissaire Galant va se fâcher un moment donné. Là.
Oui, mais en même temps, tu peux pas forcer la personne à s'en souvenir. Fait que c'est tout le temps ça qui est délicat, mais c'est là que tu vas sortir tes preuves.
Pas au Québec, mais dans ma dictature.
Ah, c'est sur ton île?
Oui, l'île Ruault.
Je m'attends encore à être vice-président de ton île.
Ben oui, non, mais tu vas me trouver trop méchant.
Ben écoute, je prendrai des vacances à Québec.
Exact. Quand ça touche des projets de 500 millions, 1 milliard, puis t'entends la personne qui était en charge de ce projet-là dire « Je sais pas, je me rappelle plus ». Il n'y a rien de plus choquant que ça.
Dans le courriel là, qui a été exposé, là, que Mme Guilbeault dit à François Legault, il y a des incompétents dans la boîte. En gros, mettons, il y a des incompétents dans la boîte, puis vous êtes en train de ne pas bouger, il y a du laxisme. Puis moi, je me ramasse avec ce merdier-là, puis merdier étant le mot utilisé, donc elle l'a écrit. Ouais. Elle connaît assez bien la langue française pour choisir ses mots, Mme Guilbeault, là, on s'entend. Elle était capable de dire, je m'en souviens pas, de 50 000 façons différentes. Mais pour moi, tu sais, ça... Je ne sais même pas si c'était pour protéger sa place versus ouvrir une porte importante d'incompétence présente au sein de la SAQ CLIC, puis que ça arrive en commission. J'espère que ça va être assez pour faire témoigner François Legault. Parce que là, on s'entend qu'elle vise directement le premier ministre, qui a fait des changements quelques mois plus tard, au sein de la SAQ, quand c'est devenu très, très chaud. Et ça, si ce n'est pas souligné, ça passe dans le beurre. Là, ça a été souligné en 2024. Ça veut dire qu'elle avait perçu et vu, puis après, c'est peut-être une opinion de politicienne qui avait de l'incompétence dans la boîte, puis elle l'a dit au premier ministre. Même si tout ne se rend pas au premier ministre de façon quotidienne, ça a été écrit.
Ouais.
S'il a fermé les yeux, puis il n'a pas continué à travailler là-dedans, sur combien de choses on l'éclaire, puis que ça n'a pas avancé. Là, on ne parle pas de corruption, mais on parle aussi d'incompétence, de leadership d'un parti politique.
Ouais.
Ça se peut que ce soit la fin de l'ère Legault au sein de la coalition Avenir Québec. Mais malgré tout, ça va parler pour tous les prochains partis qui risquent de prendre la tête de la province de Québec. Puis c'est là où moi j'ai peur qu'il n'y ait pas de conséquences. Parce que si on est en train de mettre des fois des ministres en punition ou autre parce qu'ils ont probablement éclairé certains laxismes au sein des ministères, bien ça peut-tu être le grand problème de leadership et le pouvoir qui est entre les mains du premier ministre qui a freiné les choses? Tu vois ça comment, toi?
Bien, c'est une bonne question, là, tu sais, le premier ministre, dans le fond, travaille avec le secrétaire général du gouvernement, qui, lui, a le contrôle sur tous les hauts fonctionnaires. T'sais. Là, y a-t-il une discussion là, puis il s'est fait dire « Non, c'est notre homme, laisse-le en poste. » Et finalement, il a laissé filer parce que son sous-ministre à lui, du premier ministre, a dit « Non, c'est notre meilleur. »
Parce qu'il y a eu tellement de chicanes au sein de la SAQ. Entre autres, Éric Kerr, On l'a cloué au mur combien de fois? Est-ce que lui avait vraiment les mains mises sur qui était en place?
Ben, c'est ce qu'on... Sincèrement, non. Là. La réponse, c'est non. Là. Les sous-ministres, là, c'est rare que c'est le ministre qui décide qui va aller là. C'est le secrétaire général puis le premier ministre, souvent, là, qui se parle de ça ensemble.
Ça revient encore à François Legault.
Oui, puis sincèrement, je vois pas comment il ne peut pas aller là, mais ils nous disent tous qu'il n'était pas au courant, ce qui me surprendrait beaucoup dans ces dépassements de coûts-là. Mais,
le courriel est assez important. S'il n'était pas au courant de tout, il était quand même au courant que sa ministre trouvait que c'était un merdier en ce moment. Là. Si quelqu'un t'écrit ça, tu vas aller mettre tes yeux et ta tête là-dedans. Là.
Ben, je pense. Là, il va falloir que lui se défende là-dessus, là, savoir qu'est-ce qu'il a fait ou pas. Ce que je trouve que tout ça soulève, c'est vraiment la relation entre le ministre, là ou la ministre, puis les sous-ministres, puis la machine. Parce que tu te rends compte que finalement, quand t'es ministre, t'as du pouvoir, mais pas tant que ça. Tu veux
faire
du ménage.
Nous, on est premiers à clamer tout le temps la tête de, de tel ministre, ça, politiquement parlant.
Mais ultimement, ils ont la responsabilité ministérielle, sauf que là, ce que la commission nous dit, c'est qu'ils ne l'exercent pas tant que ça. Parce qu'ils n'ont pas toutes les informations, ils n'ont pas tous les leviers.
Puis le premier ministre a un genre de pouvoir de pantin sur ses ministres. Mais ça vient aussi taper le clou terminal sur le cercueil de ce qui s'en vient en santé. Pourquoi ça n'a jamais changé à travers le temps? Pourquoi il y a divers motifs, mais il y a une transition technologique qui s'en vient en santé aussi. Est-ce qu'on a les bons leaders aux bons endroits? On voit aussi qu'il y a genre un laxisme sur l'implication puis l'importance qu'on donne au ministère de la technologie, là.
Mais ce qu'on dit pas souvent, là, c'est comment ils gèrent ces projets-là. Parce que là, on parle beaucoup de gros montants d'argent, d'autorisation, de qui le sait, qui le sait pas, mais... J'ai des amis dans le domaine, dont une personne que je suis allé luncher avec il y a 2 semaines, là, qui a fait beaucoup de contrats gouvernementaux, puis il me dit, tu sais, on donne un contrat, je dis n'importe quoi, de 100 000 pour revamper whatever, puis là, tu t'arrives dans la première rencontre, de le kick-off, si tu veux, du projet, puis ils sont 27 sur la table du gouvernement, de cette division-là, puis là, ils ont tous leurs besoins, puis tous leurs besoins sont entendus, parce qu'il n'y a personne qui gère le trafic. Puis c'est ça qui est important pour ne pas faire de dépassement de coûts en construction, en numérique, puis en plein d'affaires, c'est que... Il y a quelqu'un, à quelque part, qui est imputable, qui dit « ça fait du sens, puis ça fait pas du sens, on en est rendu dans le budget, OK, là, on va défoncer, parce que ça, c'est un good to have qu'on n'a pas besoin. » Comme n'importe quelle rénovation en maison, ce que tu dis, « c'est-tu quoi, finalement, le comptoir, je vais le faire en marbre, ouais, mais ça va coûter 50 000 piastres. »
Mais là, ça expose cette structure-là qu'on n'est jamais capable de taper au bon endroit, puis ça expliquerait peut-être plein de dossiers qui ont été un chaos au sein des gouvernements à travers le temps. Mais je peux pas croire que ça sera pas encore plus au-dessus de la vague que 2-3 commentaires puis un audio passé dans des émissions, là, parce que je trouve que là, l'épicentre de ce qui peut se passer au gouvernement qui fonctionne pas est dans la clip de Mme Guilbeault.
Demain, à la commission Galland, ce serait le grand retour d'œil de perdrix, Éric Kerr, qui va devoir comparaître devant le commissaire Galland, va devoir répondre aux questions. Très hâte de voir.
Mais je vais te faire une prédiction, il va dire qu'il était pas au courant parce que c'était pas sa shop.
On se souvient pas. M'en souviens pas.
Lui, il était peut-être vraiment pas au courant, par exemple.
Ben, mais c'est un problème. Ils ont fait un ministère. Le ministère du go courant des affaires numériques. Puis
il l'a demandé. Il l'a plaidé pendant des années. On a créé un. On l'a mis à la tête.
David
pas
Chabot.
La première fois, mais la deuxième.
Un gros merci d'être passé, mon ami.
Merci à vous.
Bonne chance pour ta dent.
Jeudi matin, ça sera
gagné. Évite les pizzas pendant un certain temps.
Ouais.
Salut. Marceau le midi.